Bonjour, bienvenue dans On se fait des films, l'émission qui marie le cinéma et la vie et qui laisse aller C'est une valse. Aujourd'hui, Raoul Volfoni, pardon, Bernard Blier. Plus de 130 films dans tous les registres, un physique tout en rondeur et un talent immense, tout en angle saillant. Bernard Blier était un cap, un roc, une péninsule du cinéma français.
Guillemette Audicino, on se fait des films sur France Inter.
Il est parti.
Non mais t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou ce mec.
Mais moi les dingues je les soigne.
Je vais lui faire une ordonnance.
Et une scellée. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
130 films. Une voix, une gouaille, un sens comique incroyable, une noirceur folle. Et quelque chose d'impénétrable aussi. Comme une vraie violence rentrée. Comme tous les hommes qui ont vu les horreurs de la guerre, mais n'en parlent jamais. Bernard Blier était immense. Bernard Blier, initial bébé, fait partie de ces comédiens pour lesquels on laisse la télé allumée un dimanche soir, ou un mardi d'ailleurs, jusqu'à la fin du film, parce qu'il est impossible de ne pas le savourer jusqu'au bout, même si on le connaît par cœur. Cher Bernard, sachez-le, nous vous estimons.
J'aime bien les compliments, et si je vous disais le contraire, je suis un affreux menteur, mais... j'aime bien les encouragements et les compliments, surtout les encouragements. Mais enfin, les compliments me touchent. Le compliment qui me toucherait peut-être le plus, c'est le sentiment de mériter l'estime.
Si je dis, vous êtes un vrai professionnel, Bernard Blier.
Oui, là, je suis très touché.
Je le dis.
Merci. Mais c'est surtout ça qui m'intéresse. Je suis sensible à la popularité... à des moments de gentillesse que je trouve chez le public, mais ce qui me touche le plus, c'est très sensible quand on joue la comédie au théâtre, c'est de sentir des gens vous écouter quand vous servez un texte ou un auteur de votre mieux.
Sensible aux gens qui vous reconnaissent dans la rue?
Bien sûr, si on me reconnaît pas, je fais une gueule épouvantable.
Pas de fausse hypocrisie?
Non, mais les acteurs sont faits pour être connus. Si j'étais pas connu après 30 ans de métier, ça serait dramatique. Non, j'aime bien qu'on me reconnaisse.
Jean-Pierre Melville m'a dit l'autre jour, depuis la mort de Bourvil, il n'y a plus que 13 comédiens en France et il vous compte parmi ces 13.
Ah, bah, je suis très fier.
C'est un autre compliment. Il y a vous, il y a Perrier, il y a Montand, il y a Alain Delon.
Ah, bah, je voudrais bien connaître la liste de Jean-Pierre, parce que 13, c'est pas beaucoup, il est sévère, mais ça me touche. Ça me touche beaucoup.
Bernard Blier avait la collection complète des œuvres de la Pléiade. On a bien dit « complète », hein ? Pas façon puzzle, ni juste pour épater les caves. Complète. Bernard Blier a tout joué. Le tonton flingueur comme le flic mal embouché, l'amoureux un peu rond et transi, comme le notable de province. Mais aussi, il avait tout lu. En dehors de son métier, il avait deux autres religions, donc les livres... et les pipes, sur lesquelles il ne fallait pas le lancer, car il pouvait passer des heures à vous expliquer comment ça se fume façon cérémonie. C'était un humaniste qui jactait l'audiard comme personne et dont la vie fut bien plus aventureuse que ne laissait supposer son physique de père tranquille.
Vous faisiez les jeunes premiers classiques?
Ah non, moi je jouais les vieux. J'avais 18 ans et je jouais les barbus, je jouais les grands-pères, je jouais les vieux barons d'Empire, toujours. Ça se passait toujours comme ça.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels.
Be initials, be initials, be initials, be, be.
tandis que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. Jusques en haut des cuisses, elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guerlain dans les cheveux. Clochette d'argent de ses paniers, achetant ses grelots, elle avança et prononça ce mot.
Initials BB, Serge Gainsbourg.
Guillemette Audicino. On se fait des films sur France Inter.
Alors nous sommes sur France Inter, nous sommes avec Bibi, nous sommes avec Bernard Blier. Alors d'abord, Bernard ne naquit pas à Paname ou dans un village du Cantal, mais en Argentine. Exactement le 11 janvier 1916, à Buenos Aires. Il est le premier enfant de son père, Jules, biologiste et vétérinaire en mission en Amérique latine, alors que sa mère Suzanne a déjà deux enfants d'un premier lit et s'est retrouvée veuve à 27 ans après le suicide de son premier mari. L'histoire familiale de Bernard a connu un autre décès prématuré et Bernard en a hérité une promesse à tenir.
Bernard Blier, est-ce que vous auriez pu faire une carrière politique? Vous auriez pu être député
Je crois pas, non.
Sénateur peut-être?
Ah non, dites donc, plaisantons pas. Non, je pense que je n'aurais jamais fait de carrière politique parce que vous me parliez de ma famille, tout à l'heure il y a un serment dans ma famille. Mon grand-père, du côté de ma mère, était député de Dijon. Et il avait été élu comme député contre un candidat boulangiste. Et non seulement ça l'a ruiné, mais il en est mort très jeune. Et sur son lit de mort, il a fait jurer qu'on ne ferait jamais de politique dans la famille. Et jusqu'à présent, ça a été respecté. C'est une belle histoire, non?
Quand, à cause de la Première Guerre, son père Jules doit retourner en France pour être incorporé comme vétérinaire des armées, sa famille le rejoint. Et une fois le conflit terminé, tout le monde s'installe à Paris, où il est nommé sous-directeur de la compagnie des transports frigorifiques. C'est peut-être comme ça qu'on contracte de l'humour à froid. Mais découvrant que cette société ne respecte pas les règles d'hygiène, cet homme intègre redevient vétérinaire aux abattoirs de Saint-Denis. Il est aussi chargé de l'inspection sanitaire des volailles aux Halles de Paris, bel ancêtre de Rungis. Pendant qu'il se consacre corps et âme à son métier et à ses recherches personnelles, c'est entre autres grâce à lui que les yaourts aujourd'hui ont une date de péremption sur leur opercule en aluminium. Donc, pendant que papa travaille, le petit Bernard n'en fiche pas une rame au lycée Condorcet. un cancre, hanté par l'échec et qui, pour compenser, fait des conneries. Il lit déjà beaucoup, dévore Dumas et Flaubert et va au cinéma sur les grands boulevards. Grâce à son amour des textes classiques, à 12 ans, déjà, il le sait. Il l'a décidé, il sera comédien. Bon, allez, on met le turbo, paf, façon Bourpif, et nous voilà en 1931, où il commence à prendre des cours de théâtre. La première fois qu'il passe le concours d'entrée au Conservatoire de Paris, il est recalé.
J'ai commencé à faire du théâtre, d'abord parce que j'en avais envie, mais j'ai commencé à jouer la comédie par accident. J'avais été recalé au conservatoire.
Ah bon?
Alors j'avais été voir les Pontes de l'époque, en l'occurrence d'ailleurs des Pontes très bien. Des Pontes qui étaient Léon Bernard et des grands acteurs du moment. Mmh. Je dis l'époque comme si c'était très vieux, en réalité ça remonte à 1937. Mmh. Et on m'avait dit, t'as été recalé au conservatoire, ça n'a aucune importance, mais il faut que tu trouves une espèce de souplesse dans ton métier et que tu acquières un peu plus d'habitude du plateau, alors il faut jouer. Alors j'ai été jouer. J'ai d'abord commencé par rencontrer un type dans un train qui m'a dit qu'il allait m'emmener en tournée dans le midi de la France. Et il m'a emmené dans le midi de la France pour jouer des classiques. J'ai donc débuté en jouant Jodelet des Précieuses Ridicules et Sylvestre des Fourberies de Scapin. Ceci pour un public d'étudiants des Bouches-du-Rhône.
Vous étiez dans l'ambiance par conséquent.
Oui, mais eux pas du tout. Parce qu'ils nous ont sifflé très rapidement. Je me souviens qu'il y a eu, à Aix-en-Provence en particulier, on s'est fait siffler.
Bon.
Mais ils avaient raison d'ailleurs, parce que c'était pas très bon comme spectacle.
Vous êtes méchant avec vous.
Non, je demande pardon aux camarades qui m'accompagnaient, s'il y en a qui écoutent ça, mais enfin, ils doivent se rendre compte en mettant la main sur la conscience que le spectacle était ce qu'on appelle un peu gratiné, comme on dit dans la profession. Alors là, j'ai commencé, je portais les bagages là-dedans, je touchais 80 francs par jour, on voyageait en troisième classe, mais enfin, c'était tout de même un bon souvenir. Et puis après ça, je suis revenu. Cette tournée a duré 8 jours, j'en parle comme si ça avait duré un an. Mais non, ça a duré 8 jours, heureusement.
8 jours de succès.
8 jours de succès mitigé, de concerts variés parmi le public. Alors je suis revenu d'ailleurs de Marseille à Paris, toujours en troisième classe, et pendant tout le parcours, tous mes camarades se sont mis d'accord pour me prédire que je ne jouerais jamais la comédie et qu'il valait mieux que j'abandonne.
Alors, Bernard assiste d'abord en auditeur libre à la classe de celui qui va devenir son maître, son exemple, sa statue du commandeur, Louis Jouvet, le patron, comme il est surnommé dans la profession. Puis, enfin, Bernard est admis au conservatoire en 1937 et premier au concours devant deux garçons qui vont devenir ses grands amis, François Perrier et Gérard Houry. François Perrier qui sera témoin au mariage de Bernard le 3 mai 1938 avec Gisèle. 1938 est une année à marquer d'une pierre blanche. Après quelques apparitions au théâtre puis au cinéma, Blier est à l'affiche aux côtés de Jouvet dans Entrée des artistes de Marc Allégret. Il y joue un jeune élève du conservatoire auquel le maître donne un bon conseil.
Adieu Gilberte.
À quand il est là ?
Vous, c'est vous.
Non, comment. Comment.
Vous, c'est vous.
Mais non, il n'est pas surpris, mon petit, il est amoureux.
Vous, c'est vous.
Passionné. C'est la dernière réplique de l'acte. Le rideau tombe sur ce c'est vous. Recommence.
Vous, c'est vous.
Mais non, en entrant, tu devrais tout de suite, mon petit, tu n'attends pas une heure pour dire vous, c'est vous. Et on recommence, mon petit, passionné.
C'est vous.
Oui, enfin, ça va. Rideau.
Mireille, ce n'est pas mal, mon petit, mais tu es un peu trop coquette. Tu es de très joli genre, et je t'en félicite, mais ton rôle n'est pas un rôle à jambes, c'est un rôle de sentiment. Il faut qu'on oublie les jambes. Alors ne les montre pas, laisse-les en police.
Compris ?
Oui, maître.
Quant à toi, Pescani, tu joues mollement. Vous pouvez écouter, vous autres. Tu t'installes confortablement dans un métier où il n'y a pas de confort, le métier d'acteur.
Puis, Hôtel du Nord, de Marcel Carné, avec toujours Louis Jouvet et Arletty, qui a une gueule d'atmosphère. Dans le rôle d'un éclusier cocu, le jeune Bernard a une scène merveilleuse d'émotion. Il pleure tout en mangeant un sandwich au jambon et il bouffe ses larmes en même temps.
L'alcool, Scrooge.
J'ai pas le cœur à manger.
cœur n'a rien à voir là-dedans. On pleure avec ses chances, on mange avec sa bouche. Mélangez pas les organes.
Vous êtes bonne, madame Edmond. Comment il faut vous appeler? Madame Edmond, mademoiselle Raymond?
Ça dépend de quel œil on me regarde.
Ah, ouais.
Ah ben le moral reprend le dessus.
Vous qui connaissez les hommes, comment expliquez-vous le départ de Ginette? Une femme que j'aimais comme une mère. Une femme à qui je faisais prendre des leçons de coiffure.
Un moment de cafard.
Non, ben, c'est pas d'aujourd'hui que ça l'a prise.
Des moments qui durent longtemps.
Ben, il y a longtemps que Kenel et elle. Oh là là. L'été dernier, quand j'ai pris mon congé, on avait décidé de partir à Dieppe. J'avais tout préparé. J'avais été moi-même chercher les billets à la gare. J'arrive tout content. Je me vois encore, quel ballot. Je lui tends les billets comme un bouquet de violettes. Vous savez pas ce qu'elle me dit?
On ne part plus.
Vous le saviez?
Non, je l'ai reniflé.
Sur le tournage, Jouvet, son maître, devient son ami. Et il bavarde sans relâche. C'est aussi sur ce film que Bernard, qui prenait jusque-là son métier un peu à la légère, a une révélation.
Bon, mon Dieu, moi je trouve que j'ai un vieux principe. Enfin, je suis jeune, mais j'ai déjà un vieux principe qui consiste à déclarer qu'on joue la comédie au théâtre et au cinéma de la même façon, qu'il n'y a pas deux façons de jouer la comédie. Enfin, j'ai été un peu surpris au cinéma, mais par la suite, quand je me suis rendu compte de la gravité que pouvait donner une prise de vue. Parce que quand j'ai commencé à faire du cinéma, je m'en fichais complètement. Je ne pensais qu'à une chose, c'était d'abord à bien m'amuser dans la vie.
Et vous aviez raison, d'ailleurs.
Oui, remarquez que j'y pense toujours, seulement. Maintenant, je me rends compte que la situation est quelquefois grave au cinéma parce qu'on joue une scène, et puis elle est finie, la scène, elle est jouée. Et 3 ans après, on passe à Bourges ou à Romorantin, et on voit la même scène aussi mal jouée que le jour où on l'a jouée la première fois. C'est une chose officielle, c'est marqué, c'est gravé, il n'y a rien à faire. Alors quand je me suis rendu compte de ça, j'ai eu le trac. Mais au début, je ne me rendais pas compte du tout, et j'avais pas le trac. C'est-à-dire que le monsieur qui m'a donné le respect du cinéma, c'est Carné, qui m'a tellement attrapé quand j'étais en Hôtel du Nord pour lui, que il m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs, parce que c'est lui qui m'a donné le respect que j'avais quand même, mais enfin c'était mon subconscient qui l'avait, c'était pas moi.
Oui, je comprends très bien.
Et lui m'a appris à travailler très sérieusement.
Bernard accepte tous les rôles au théâtre, quitte à remplacer des collègues malades au pied levé, du moment que Jouvet le lui demande. Et il est capable de mémoriser un rôle en une journée. Mémoire d'éléphant. Il tourne aussi dans un autre chef-d'œuvre de Carné, encore plus grand qu'Hôtel du Nord, sans doute l'un des plus beaux films du monde. Le jour se lève, avec Jean Gabin, en ouvrier, assassin par amour, acculé dans sa petite chambre, en haut, tout en haut d'un petit immeuble, avec la foule en bas.
Gardez-moi
seul là maintenant! François! François! Oh, je suis fatigué, laissez-moi!
François!
François!
J'ai plus confiance! C'est fini! Fini, vous entendez?
François, t'obstine pas! Ça sert à rien! Il y a des gens qui ont tué déjà, ils en sont pas morts!
Descends, on verra après!
Eh, dites donc les gars, il y a une place à prendre! Une bonne petite place, un bon petit boulot! Avec des heures supplémentaires! Alors, allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Un bonheur, là, tout un petit bonheur, hein?
François, tu devrais sortir! Ça sera le vrai!
Quoi, François? Quel François? Il y en a plus de François, je connais pas! Je connais pas, il y en a plus de François nulle part!
Et c'est pendant le tournage, qui se déroule au studio de Billancourt, que le 14 mars, à quelques pas des studios, dans une clinique de Boulogne, que naît son fils, Bertrand. Bertrand avec un B. Chez les Bliés, initial bébé, c'est une tradition. C'est la guerre. Bernard est envoyé sur la ligne Maginot. Arrêté dans les Vosges par les Allemands, envoyé dans un camp de prisonniers à Reims, dont il s'échappe, il est repris et envoyé cette fois dans un stalag près de Vienne avec le matricule 90-346. Les conditions de détention sont atroces. Humiliante, et le caporal Blié perdra 27 kilos. Le meilleur des régimes, dira-t-il plus tard, avec un humour noir hérité de son père et qu'il transmettra à son fils. Mais il gardera pour lui les pires détails. En 1941, il réussit à s'échapper grâce à de faux papiers dans un convoi sanitaire et débarque à la gare de l'Est. C'est Parquet Courts, c'est Wide Awake et ça swing grave! Nous sommes sur France Inter en compagnie de Bernard Blier. Alors, il a été prisonnier au Stalag. Il est revenu avec 27 kilos en moins. Et la reprise de son métier va être difficile. D'autant qu'il a du mal à obtenir sa carte de comédien délivrée par Vichy. Heureusement, le réalisateur Christian Jacques est là, qui le fera tourner 5 fois entre 1941 et 1942 dans de petits rôles. Et beaucoup de rôles de cocus gentils.
Et alors justement, Bernard, vous avez en général des personnages qui sont des gens gentils. Est-ce que ça correspond enfin au fond profond de votre nature?
Non, je ne suis pas plus gentil qu'un autre, plutôt moins.
Non, moi je trouve que vous êtes très gentil, mais je veux dire, est-ce que vous allez essayer quelquefois enfin, d'échapper à cette gentillesse,
oui,
à cette bonhomie, si vous voulez,
qui est je voudrais, en tout cas. Je voudrais le faire, quoique je me méfie des rôles qui sont antipathiques par principe.
Avançons jusqu'à l'un de ses plus beaux rôles de cocu, d'autant qu'il est seulement persuadé de l'être. Dans Quai des Orfèvres, autre chef-d'œuvre, cette fois réalisé par Henri-Georges Clouzot en 1947. Blier y incarne Maurice Martineau, un brave garçon, modeste pianiste, fou amoureux de sa femme, la chanteuse Jenny Lamour, qui use un peu de ses charmes, notamment auprès de Brignon, un vieux libidineux influent. Brignon est assassiné, et c'est Louis Jouvet qui mène l'enquête.
C'est complètement folle, non? Pourquoi t'as tenu ce gars-là?
C'est intéressant ce qu'il a dit, non?
Ah, tu penses? Tu savais quoi il a allumé sa pipe? Avec l'adresse de Brignon et écrite de ta main encore. Dis-donc à propos. Tu devineras jamais où je l'ai trouvé cette adresse. Dans la cuisine, cachée derrière une casserole, hein? Qu'est-ce que tu penses de ça?
Je te l'ai dit que j'avais rendez-vous avec Brignon.
T'avais pris rendez-vous chez Lapérouse et il t'a donné son adresse particulière?
Bien sûr. Au début, je devais aller le chercher chez lui. Puis, j'ai pas voulu. Je trouvais pas ça convenable.
Oh, génie. Tu es terrible.
Idiot.
Sur le tournage, Blier doit être giflé par Jouvet. Mais le maître refuse. Alors, profitant que le jeune comédien est aveuglé par les lumières du plateau, c'est Clouzot qui lui balance une gifle monumentale. Une autre fois, le personnage incarné par Blier doit subir une transfusion dans le film. Et Clouzot insiste pour qu'elle lui soit réellement faite par un vrai médecin, parce qu'il veut voir vraiment le sang couler. Blier se laisse faire. Mais le lendemain, le comédien téléphone à la production. Il ne peut pas venir tourner. Il est hospitalisé pour un début de septicémie. Affolement de la part de Clouzot, qui débarque à l'hôpital américain pour s'entendre dire que M. Blier n'a jamais été hospitalisé. Une bonne blague vaut mieux qu'une grosse colère pour calmer un cinéaste un brin sadique. Et Quai des Orfèvres restera un des films préférés de Bernard, qui savait très bien faire le tri entre le bon grain et l'ivraie.
On a parlé de 130 films.
Oui.
Vous êtes capable de faire un choix de 3 ou 4 qui, pour vous, comptent véritablement?
Ah oui, plus que ça, heureusement. Vous savez, 130 films, bon, c'est énorme. Surtout qu'il doit y en avoir plus. Mais sur ces 130, il y en a une cinquantaine au début où je jouais des panouilles. Bon, il en reste 80, mettons, en mettant les choses au mieux. Sur ces 80, il y en a peut-être 25 de très bons. Et puis, il y a 4 ou 5 chefs-d'œuvre. Ou des films que j'ai aimés particulièrement, mais qui sont peut-être des chefs-d'œuvre à mes yeux. Mais, par exemple, je trouve qu'un film comme Quai des Orfèvres, c'est un grand film. Ça bouge pas. Il y a des films que j'ai aimés profondément. Des personnages qui m'ont touché. L'école buissonnière est un personnage qui m'a bouleversé. Et ça a marché parce que c'était bouleversant, parce qu'on était touché par ces personnages-là.
Puisqu'il en parle, voilà L'école buissonnière de Jean-Paul Le Chanois en 1949. Un film oublié mais notable, car il romançait les débuts de la pédagogie freinée. À travers le personnage d'un jeune instituteur qui est à l'écoute des enfants dans un petit village de Provence. Un tournage épuisant, mais que Blier adora. Entouré de 40 gosses qui n'écoutaient que lui. Ah oui, juste avant, sa fille Brigitte était née. Initial bébé.
Bonjour. Il est bien votre moulin? Où l'avez-vous trouvé?
C'est nous qu'on l'a fabriqué.
Ouais. Et vous savez qu'on peut aussi fabriquer de la lumière avec ça?
La lumière?
Ben oui, de l'électricité.
J'ai demandé à Ise Faucon.
Qui c'est celui-là?
Le grand chef.
Ah, et toi, comment tu t'appelles?
L'homme carabine, lui le saumon. Et lui qui est mon frère, il s'appelle Tarifou Sauvage.
Ah, faites attention de ne pas vous ficher à l'eau tous les trois.
Hein? On s'est tous nagés l'indienne.
Hey, regardez les gars, une truite.
Elle est belle, dis donc.
C'est pas défendu de pêcher.
Mais qui c'est qui t'a dit ça, Ide Faucon?
Où c'est que vous êtes?
Devine.
Comment vous êtes venu?
Sur mes jambes.
Comment vous appelez?
Le bison. Et toi?
Albert.
Bonjour, Albert. Ben quoi, j'ai pas te manger, j'ai cassé la croûte ce matin, j'ai plus faim.
Le public est ému aux larmes. Mais Freiné attaque le film dans une lettre intitulée « Contre l'exploitation par le cinéma des enfants acteurs ». Quoi qu'il en soit, Blier devient, grâce à ce film, un acteur très aimé du public. En 1950, le trop méprisé Jean-Paul Le Chanois, pourtant si doué pour les chroniques naturalistes et populaires, lui offre aussi le très beau rôle principal d'un chauffeur de taxi dans « Sans laisser d'adresse ». Mais il faut avancer dans les années 50. Alors voilà deux films parmi d'autres, parce qu'on les aime, tout simplement. D'abord, avec Gabin. Gabin avec lequel Blier ne cesse de tourner. Après « Les Misérables » de, oui, encore Jean-Paul Le Chanois, où Gabin et Valjean et Blier Javert, il se retrouve en 1958 pour « Les grandes familles » de Denis de la Patellière. Certes, son rôle de secrétaire est court. Et de la Patellière et Michel Audiard, le dialoguiste, sont même venus chez lui en lui disant « Il est trop court, tu ne peux pas le faire ». Mais Bernard lit le rôle et décrète « C'est un rôle merveilleux ». Alors, quand un type de 100 kilos décrète, deux mecs de 60 l'écoutent. Et ce film politique qui lavait le linge sale de la France gaulliste deviendra l'un des deux que Gabin préférait dans toute sa filmographie.
Content de vous revoir, mon petit Lachaume. Asseyez-vous quelque part.
Moi aussi, monsieur, très content. Je suis peut-être un peu en avance?
Non, c'est moi qui suis en retard. Mon beau-frère était en train de m'expliquer l'Amérique. Il n'y a jamais été, c'est sa force. Bon, et nous? Quoi de neuf? La bourse?
Zoa a encore baissé d'un point depuis tout à l'heure. Ça, les mines en ce moment.
Oh, c'est passager, il faut soutenir. Asseyez-vous.
Votre fils, lui, pense qu'on ferait mieux de s'en débarrasser tout de suite.
Bavarder Zoa? C'est une idée, ça tient. Il en a eu beaucoup comme ça.
Ben, je crois savoir qu'il est également partisan d'une amélioration des locaux de la banque. Moi, je lui ai conseillé d'attendre votre retour pour vous en parler, mais je pense qu'il envisage, notamment au premier étage, des transformations assez révolutionnaires. Oui, une architecture plus comment a-t-il dit? Oui, plus fonctionnelle.
Fonctionnelle?
Oui.
D'ailleurs, je ne vous ai pas fait venir pour vous parler de ça, mais du journal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau bandeau? Qu'est-ce que c'est que ce limogeage de Muller?
Ce sont les premiers pas vers ce que nous pourrions appeler une évolution par palier. Oui, parce que depuis quelque temps, au journal, le mot d'ordre est la nouvelle vague.
Ah oui.
Question linge sale, il y a aussi le toujours épatant Marie-Octobre, de Julien Duvivier, adapté d'un roman de Jacques Robert et dialogué par Henri Janson, qui s'inspirait d'un fait marquant, la trahison de Jean Moulin par René Hardy en 1943. Un passionnant huis clos avec un casting de rêve, dont Daniel Darieux, Paul Meurice, Lino Ventura, Serge Reggiani et Bernard Blier, dans le rôle d'un avocat d'affaires. Un tournage que Duvivier voulut chronologique par rapport à l'histoire, et avec 11 acteurs qui se faisaient des blagues entre les prises, millimétrées, histoire de décompresser.
En 34, j'étais fasciste et cagoulard, si ça peut te faire plaisir.
Et tu as fait la guerre d'Espagne?
Avec Franco.
Et tu t'es inscrit au comité France-Allemagne?
Avec Debrinon.
Tu te refusais rien? Et après l'armistice, tu as créé à la Sorbonne...
L'association universitaire France-Allemagne, oui.
Reconnais que c'est là un casier politique assez chargé.
Mais enfin, vous savez très bien qu'en 42, lorsque l'Allemagne a violé les accords d'armistice, j'ai rompu avec tous ces gens-là. Et mon arrestation par la Gestapo. Mon séjour à Fresnes, mon transfert au camp de Drancy. Ça aussi, on peut le compter sur l'addition. Drancy, vous savez comment j'en suis sorti? Quand j'ai connu Cassis, je ne lui ai rien caché. Et c'est lui qui m'a introduit dans le réseau, c'est lui qui m'a couvert. Mettez-vous en doute sa vigilance?
Ben, il est évident que si Castille lui a fait confiance...
Ben, vous me soupçonnez. Mais moi aussi, j'ai des questions à poser. Tout à l'heure, on a parlé d'un vol de 3 millions. Et vous convenez qu'il y avait sans doute corrélation entre ce vol et la trahison.
Oh, c'est une hypothèse.
Mais en quelques instants avant la réunion, Castille t'a bien dit qu'il mettait le Guéven hors de cause.
Oui.
Qu'il avait découvert le voleur.
Oui.
Qu'il allait le démasquer.
Oui.
Il t'a bien dit que le voleur était présent, là, ici.
Oui.
Eh ben, moi, je n'y étais pas. J'étais à Rouen sous le bombardement. Le voleur était donc forcément l'un d'entre vous.
Et là, et pour mémoire, j'étais pas là non plus, moi. Absent pour cause de maladie.
Il nous a pas révélé le nom de ce voleur?
Il n'en a pas eu le temps, non.
Les Allemands sont arrivés presque tout de suite. Enfin, 10 minutes après le commencement de la réunion.
Mais pendant ces 10 minutes... Enfin, voyons, essayons de reconstituer cette soirée, voulez-vous?
1959 est une année importante, car c'est celle de son premier film important en Italie. Car Bernard Lin reste l'un de nos comédiens les plus connus et respectés par le public transalpin. La Grande Guerre de Mario Monicelli, qui va devenir l'un de ses réalisateurs fétiches. Il y tient le quatrième rôle après Alberto Sordi, Vittorio Gassman et Silvana Mangano, et le film obtient le Lion d'Or à Venise. 1959, décidément une belle année, est aussi celle de sa première collaboration avec Georges Lautner, qu'il a connu précédemment comme assistant réalisateur. Il y aura d'abord Marche ou crève, puis Arrêter les tambours, 2 ans plus tard, où le comédien incarne le rôle principal, un médecin veuf et maire d'un village pendant l'occupation, et qui soigne tous les blessés sans se soucier de leur nationalité. Lautner est épaté. Quel grand acteur, bon sang! Si humain, si subtil, et accessoirement un bon père qui impose son fils Bertrand comme assistant de Lautner. Le début des années 60 va donc rimer avec Lautner dans des pastiches de polar, mais aussi, nous le verrons, un grand, très grand film dramatique. Les Sucreries en premier. Le Monocle noir, adaptation très libre et blindée d'humour noir du roman d'espionnage du héros de la Résistance, le colonel Rémy, Oublié incarne le commissaire Tournemire et hérite aussi du rôle de narrateur. Une histoire d'espions nazis dans les souterrains d'un château breton, au son de la chevauchée des Valkyries de Wagner, où, on cite le commissaire narrateur, Les aveugles ne sont plus aveugles, les innocents sont coupables, les coupables sont innocents et les espions courent les rues. Attention, c'est très exactement là, dans cette dinguerie scénarisée par Pierre Laroche, que la comédie ultra-parodique est née. Sans ce monocle-là, point de tonton flingueur ni de barbouze.
Mesdames et messieurs, je vous demande pardon une minute. Enfin, juste le temps de vous prier de ne pas prendre trop au sérieux ce monocle noir qui étudie le comportement d'un intellectuel à peu près fou entouré par de nombreux et curieux espions. Les espions, ce sont ceux des autres. Mais parce que les nôtres, ce sont des agents secrets. Ah. L'humour noir est à l'honneur dans ces aventures que le colonel Rémy a imaginées pour vous sans oublier que la réalité dépasse parfois la fiction. Et bien entendu, toute ressemblance avec des personnages existants ne serait que pure coïncidence. Ben voyons. Alors pour une fois que les agents secrets n'ont pas de secret pour nous, profitons-en. À tout de suite.
Donc ensuite, il y eut les tontons en 63 et les barbouzes en 64. On va se faire une petite tranche de chaque. D'abord Raoul Volfoni, qui a envie de prendre, comme qui dirait, le pouvoir.
Voilà 15 ans qu'on fait le trottoir pour le Mexicain. J'ai pas l'intention de continuer à tapiner pour son fantôme.
Le trottoir, le tapin. C'est drôle, ça. On croirait que tu cherches les mots qui blessent.
C'est des images.
Les images, ça m'amusait quand j'étais petite. J'ai passé l'âge. Je dis pas que lui était toujours très social, non? Il avait l'esprit de droite.
Oh, Dieu.
Quand tu parlais augmentation ou vacances, il sortait son flingue avant que t'aies fini. Mais il nous a tout de même apporté à tous la sécurité.
Ramassez les miens, vous appelez ça la sécurité, vous? Vous savez combien il nous a coûté, le Mexicain, 15 ans? Vous savez combien il nous a coûté?
À 10 heures, Paul, moi, je peux plus.
À 500 sacs par mois, rien que de loyer, ça fait 6 briques par an. 90 briques en 15 ans.
Plus 30 briques de moyenne par an sur le flambe. Vous savez à combien on arrive? 1,5 milliard. Et toi, pareil pour la petite ferme. Bah, dis que c'est pas vrai!
J'ai rien dit.
Bah, moi, je dis que je lâcherai plus une thune. Et je vous invite à tous en faire autant.
Vous invitez, vous invitez. C'est très aimable, mais il y a des invitations.
Qu'est-ce qui te gêne, toi?
Le climat. 3 morts depuis hier. Si ça doit tomber comme à Stalingrad. Une fois, ça suffit. J'aime autant garder mes distances.
Il n'en essaierait pas de me faire porter le chapeau des fois. Faut le dire tout de suite, hein. Parce qu'il faut dire, monsieur Raoul, vous avez buté Henri. Vous avez buté les deux autres mecs. Vous avez peut-être aussi buté le Mexicain. Puis aussi l'archiduc d'Autriche.
Et puis, il y a Eusebio Caffarelli, dit le chanoine. Dans cet extrait, il ne parle pas. Mais si, en fait, il parle, forcément. Il parle de l'Audiard, Eusebio, le roi des faux-culs.
Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Il faut bien admettre, en effet, que cette nuit, quelques petits excès ont été commis.
Étourderie, enfantillage, plaisanterie.
Entrées qui sont faites méchantes, t'as quand même failli tuer 4 personnes, faut bien le reconnaître.
J'ai été personnellement victime d'une ignoble tentative d'assassinat.
Il conviendrait de l'oublier pour un temps, cher Muller.
Je n'attaque pas le principe, mais le procédé.
Oui, les parents ont croqué les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. La violence engendre la violence.
C'est ça, et qui sème le vent, récolte la tempête, etc. Et tout ça pour en venir à quoi?
À ceci. La maison est confortable, la table excellente. Notre hôtesse délicieuse, pourquoi ne pas tempérer provisoirement certains réflexes? Pourquoi ne pas poursuivre cette idée de trêve, évoquée un peu sommairement hier soir, qui rendrait ce séjour harmonieux?
Tout le monde, il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde, il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi ça sert? Si c'est même pas pour leur montrer. Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Oh, je devrais m'éloigner, loin du game, loin du danger. Mais j'avoue, j'aime bien jouer. Si c'est de moi dont on va parler, où j'oublie tout et je m'en vais. Yeah. Moi, je m'en vais marcher, naïve comme jamais, loin des regards armés. À quoi bon? T'es tellement seule. À ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Et puis à quoi bon? T'es tellement seul avec ton argent, tu sais même pas pourquoi t'es tout le temps avec des miches de sans sentiments. Au fond, j'avoue que même moi, je fais partie de ces gens-là, rassurés quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Et seulement ça, ça les fait bander.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la faille.
Tout le monde il veut seulement la
faille. Et seulement ça, ça les fait bouger.
Tout le monde il veut seulement la faille.
Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Tu penses à ce que vont penser les gens.
Tout le monde il veut seulement la faille.
Mais tu les laisses tous indifférents.
Angèle qui chante la thune.
On se fait des films sur France Inter.
Nous sommes sur France Inter avec un barbouze, pardon, avec Bernard Blier. Alors justement, les tontons flingueurs, les barbouzes, deux films où Bernard Blier donne la réplique au génial Francis Blanche. Un très grand copain à lui dans la vie. Ils tourneront une dizaine de films ensemble, mais surtout, ils partageaient une drôle d'activité. Régulièrement, Bernard est invité dans la maison de Francis, à Aise Village, dans les Alpes-Maritimes, pour des dîners camembert. Alors le principe, venir avec deux boîtes du dit fromage. Puis, en fin de repas, lancer son camembert au plafond, le plus efficacement possible pour qu'il reste collé. Francis Blanche chronométrait très sérieusement le temps d'adhésion de chacun, établissait des records et le perdant non seulement était privé de fromage, mais il devait faire la vaisselle cul nu. Dans le genre pastiche, nous avons aussi du lourd, du très lourd. Avec le cave se rebiff de Gilles Grangier. Véritable festival de répliques cultes balancé par Gabin, Françoise Rosée et évidemment Blier. Dialogue de Michel Audiard sur un scénario d'Albert Simonin, adaptant lui-même le deuxième volet de sa trilogie Max le Menteur, qui s'insère entre Touchez pas au Grisby et Grisby or not Grisby, qui sera adapté sous le nom des Tontons Flingueurs.
Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, Monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manche en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore, les rois, ils arrivent à l'heure. Parce que j'en ai connu, moi, mon cher maître des rois. Et puis pas des petits. Des Hanovre, des Hohenzollern. Rien que des michetons garantis croisades. Vous me voyez là maintenant, mais moi, j'ai pas toujours tenu un clan d'ail, hein. Vous avez pas connu la rue du Chalabet. 60 chambres, et ils ont filé tout ça aux petites sœurs des pauvres, quand j'y pense, tiens. Alors c'est pour vous dire que votre ami Eric, ses grands airs, il peut se les cloquer dans le baba.
Mais revenons à Lautner. Dans la filmographie blagueuse du réalisateur, Le Septième Juré reste un cas à part. Il fut tourné en 61 à Pontarlier, dans le massif du Jura. On se gelait les miches, précisa Bertrand Blier, à nouveau assistant réalisateur sur le film. Tourné à Pontarlier, sur les conseils de Bernard Blier lui-même, qui connaissait très bien le coin, pour y aller en vacances, car Bernard, le sait-on, était un très bon alpiniste.
Qu'est-ce que c'est cette histoire, Bernard Blier, du film « Seul dans la nuit », lorsque vous refusiez de vous faire doubler? On m'a dit que vous avez sauté par la fenêtre.
Oui, je me suis cassé les deux pieds, même.
C'était une tentative de suicide?
Non, je trouvais ça courageux de ne pas me faire doubler. À l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup. Mais je l'ai fait 4 fois, puis à la 5e fois, je me suis cassé le calcanéum 2 fois à chaque pied.
Non, je dis cela car il y a chez vous un côté qu'on connaît mal. Il y a d'abord cette chose-là, vous êtes un cascadeur né.
Non, plus maintenant, parce que maintenant, faites-moi sauter d'un tabouret, vous verrez, je refuserai.
Et vous avez fait beaucoup d'alpinisme et...
Oui, j'ai été un très bon
montagnard. Des séances d'alpinisme qui sont soldées parfois par des accidents graves.
Oui, j'ai eu des accidents en montagne, oui. Mais j'étais un bon montagnard, mais sans faire de performances extraordinaires. Je vais toujours à la montagne dès que je peux, parce que maintenant je fais plus de montagne, parce que je suis trop lourd à porter, mais j'ai besoin de la montagne.
Le Septième Juré, donc. Bernard Blier avait lu le roman policier de Roger Francis Didelot, paru au Club des Masques en 1958, et le mit dans les mains de Lautner, à la fin du tournage du Monocle Noir. Si tu veux que je tourne ensuite dans L'Œil du Monocle, on fait d'abord ce film. Il voulait absolument jouer ce pharmacien, meurtrier du dimanche, dans une petite ville de province qui étouffe sous la bienséance rance, et se retrouve juré au procès d'un suspect idéal, glandeur et libertaire.
Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je suis passé, elle était là. Mais mon Dieu, pourquoi était-elle là? J'avais trop mangé, trop bu. Qu'est-ce qu'on peut faire le dimanche? C'est un crime. Oui, mais un crime d'homme sous. Un crime de fou. Non. Un crime de lâche. Et puis j'ai eu peur de les voir arriver, qu'ils me surprennent avec cette fille. C'est leur faute. Ce sont eux les responsables. Eux qui me suivent partout. Qui sont toujours derrière moi, à me regarder, à me surveiller. La petite Madame Duval et ses 2 grands-enfants. Famille d'anthropophages.
Au scénario, Pierre Laroche, ami de Jacques Prévert et chroniqueur au Canard Enchaîné, se régale à crucifier la petite bourgeoisie étriquée et hypocrite de la fin des années 50. Et pendant le tournage... Patatras. Bernard Blier, qui ne s'entend plus du tout avec son épouse Gisèle, tombe amoureux de la réceptionniste à l'hôtel de la Poste où réside l'équipe du film. Il a 44 ans, elle a 20 ans de moins que lui. Il réussira à cacher cet amour à toute l'équipe jusqu'au clap de fin. Le divorce avec Gisèle prendra des années. Elle le fera même prendre en flagrant délit d'adultère par les gendarmes au petit matin. Autre temps, autre mœurs. Mais il finira par épouser Annette 4 ans plus tard pour ne plus jamais la quitter, l'emmenant même sur ses tournages. Et le Septième Juré reste aussi, de la vie de beaucoup, son plus grand rôle. Il y est vraiment colossal. C'est donc accompagné d'Annette qu'il traverse la Méditerranée pour cette petite merveille inoxydable, 100 000 dollars au soleil, de Henri Verneuil en 1963, tourné à Ouarzazate dans le désert marocain, sous 50 degrés. Qu'importe la chaleur, Bernard Blier est content de retrouver son copain Lino Ventura, avec lequel il passe son temps à parler de bouffe. Il faut dire que la cantine du tournage est rudimentaire et elle ne convient pas du tout aux 2 gastronomes. Il est aussi excité de tourner avec un Belmondo, arrivant de la nouvelle vague, et qui s'habitue très vite à son humour à froid. Il y incarne Mitch Mitch, un camionneur qui préfère raconter des histoires d'un genre viril plutôt que de désensabler le bahut avec Lino.
Dis donc, qu'est-ce qui vous avait fait le sourdin quand vous le mettiez dans cet état-là? Il n'avait pas l'air content. Il m'a dit aussi que cette petite vache de Rocco se trimballait avec une fille, c'est vrai? Peut-être qu'il l'aura ramassé en bordure de piste.
J'en sais rien.
Tiens, ça me rappelle ma finlandaise. Tu la connais, mon histoire avec la finlandaise? Oui. Eh ben, toi qui la connais pas, tu vas te poêler. Figure-toi qu'un jour, sur la piste d'Insaoud, je tombe sur un petit ingénieur des pétroles avec sa Land Rover en rideau. Il avait sa bonne femme avec lui. Il avait une grande blonde avec des yeux qui avaient l'air de rêver, puis un sourire d'enfant. Une salope, quoi. Moi, je repère ça tout de suite parce que les femmes, c'est mon truc.
C'est pas comme le pelletage, hein?
Alors, aussi c'est que je propose au petit ingénieur, si vous voulez, j'emmène votre dame à Agdide et puis je vous envoie la dépanneuse. Le branque dit oui et me vlaborer avec la poupée. C'est pas vrai, Saïd?
Tout ça, c'est vrai?
Si, c'est vrai. Et c'est même vachement intéressant.
Tu vas bosser un peu, dis, hein?
Une seconde, ça l'intéresse. Hein, que ça t'intéresse?
Oui, oui.
Alors, sitôt parti, je me mets à conduire d'une main. Et voilà que la môme se met à faire des minauderies.
C'est façon pudeur, des petites manières de bonne femme, quoi. Sous peut-être que Saïd est en train de prendre un jeton. Et à ce moment-là, on arrive dans la zone des dunes. Alors je dis à ma finlandaise, est-ce que vous avez déjà vu la rose des sables? Non, qu'elle me fait. Alors j'arrête le bahut, et je dis, voyez la dune là-bas? Et ben derrière, il y a les plus belles roses des sables de tout le Niger. Et ben elle a voulu y aller voir.
Bernard Blier a 50 ans. Et sa carrière stagne. Il a beaucoup tourné en Italie. Les Italiens prétendent qu'il porte chance au film. Ou dans des films à sketch, ou dans des comédies oubliables, ou encore comme faire valoir de Louis de Funès dans Le Grand Restaurant. Et puis, en 1966, c'est Bertrand, son fils, qui vient le chercher pour son deuxième film, sa première fiction, après le très remarqué documentaire « Hitler connaît pas ». Il a écrit « Si j'étais un espion », pour montrer, dit-il, l'ampleur du talent et de la bonté de son père. On trouve déjà dans ce film l'inquiétude kafkaïenne de Buffet Froid et la même complicité entre le fils et le père. Bernard incarnant un médecin veuf et tranquille, brutalement entraîné dans une sale histoire d'espionnage. Le film, hélas, sera un échec retentissant. S'en suivra une brouille entre père et fils. Bernard, pourtant admiratif de la mise en scène de Bertrand, lui reproche de lui avoir donné comme partenaire son épouse de l'époque, Hélène Scott, mauvaise actrice d'après lui. Une autre désillusion s'ensuit, et pourtant, pour Blier, c'était normalement un rêve annoncé, tourné avec Visconti, et dans une adaptation de L'étranger de Camus, qui plus est, aux côtés de Marcello Mastroianni, car le producteur ne voulait pas d'Alain Delon, comme le souhaitait Visconti. Le résultat déçu Visconti lui-même, qui renia son film. Heureusement, les copains de toujours sont là. Audiard, Lautner et Yves Robert. D'abord Audiard, qui en 1968 décide de passer à la réalisation avec « Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages » pour, prétend-il, se reposer. Il s'amusera à déclarer dans la presse que le tournage s'est fait sans lui, et que lorsqu'il passait sur le plateau, il voyait Bernard Blier dicter ses propres dialogues à la script. Le doute est donc permis. Peut-être que c'est lui, Bernard, qui a inventé l'une des répliques les plus célèbres de sa filmographie.
Il a dû être retardé dans un embouteillage.
À l'école, il avait toujours le prix d'exactitude. Et le prix de bonne camaraderie. Les institutions, la notoriété, le prestige, tout est bafoué et tout. Le roi s'endort, on dessoude le dauphin. Jolie manière. Mais attention, hein. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse.
C'est chouette comme métaphore, non?
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Oh, fais pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
À peine quelques jours après la sortie, dans une conférence de presse, le général de Gaulle reprend à son compte le titre à rallonge du film et les entrées triples du jour au lendemain. Mais on n'a plus le temps de raconter la suite, mais si, on la raconte demain. Alors demain, il y aura de nouveau du Lautner, il y aura aussi du Pierre Richard, il y aura aussi toute une carrière dramatique parce que Bertrand est toujours là pour filmer son père. Ce sera magnifique, forcément, mais ça, ce sera demain. Cette émission a été préparée par Lorraine Bess, Clara Marliot, Isabelle Olivier, à la réalisation Étienne Bertin, à la technique Nasser Moussaoui, à la programmation musicale épatante Muriel Pérez. Et c'est fini et c'est demain qu'on continue.